Afternoon, everybody. No!
We'd like the Black Legion to stop this farmer strike on behalf of American prosperity. And in return, we're offering substantial support for as long as our business interests and your moral crusade both continue to happily coincide.
God damn it, Chantal! What is wrong with you?
What do you think banks do with money? Put it in other banks?
No, they do what everyone with money does. They use it to rout and pillage and plunder because that is the American way.
So Alex Ciambrulli claims that he got a hand job from Sarah Pearson.
Hold on. I can't talk to you about that.
Murder board. Murder board. Murder. No chanting.
You're slut shaming me. Shame on you.
Girl, can you come down off the cross? We need the wood.
Happen Leonard! Come out and play!
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, quatrième épisode déjà de la saison 6 avec Aurore qui nous a rejoint.
Bonsoir.
Bonsoir Aurore, de toute façon cette émission, on le sait, sans toi n'existe pas, donc on espère que tu es là évidemment. Bon, on va débuter comme chaque semaine, chaque édition d'émission avec une petite revue de série que tu as pu voir pour nous dernièrement et qui, sur laquelle tu as un avis.
Voilà, oui, ne t'avance pas trop.
Non, c'est vrai je ne dis plus si c'est positif, négatif.
Ces derniers temps, ce n'était pas forcément toujours positif. Donc, j'ai malgré tout essayé de me concentrer sur ce que j'avais trouvé de plus positif, même si on va commencer justement par celui pour lequel j'ai peut-être l'avis le plus contrasté. C'est une nouveauté qui s'appelle « New Amsterdam ». Qui se présente comme une série médicale, qui nous fait rentrer dans l'hôpital de New Amsterdam à New York. Alors, je dois t'avouer que je ne connais pas du tout. Mais,
c'est le nom de l'hôpital, nous ne sommes pas en Hollande, quoi, en gros.
Pas du tout,
voilà.
C'est le nom de l'hôpital, et c'est un hôpital qui est absolument énorme, qui a la taille quasiment d'une ville à lui tout seul, et qui a notamment une de ses particularités, par exemple, c'est d'être en contact direct avec la prison de Rikers Island, et donc d'avoir une aile réservé par exemple aux urgences des détenus. Oui, de quoi arriver directement à la prison.
Tu trouves tes mots,
c'est bien.
Je ne
trouve pas mes mots, c'est comme d'habitude, c'est génial. Bon, bref. Pourquoi je parle de cette série-là particulièrement ? Parce que malgré un certain nombre de réserves, j'accroche malgré tout quand même assez bien et je ne suis pas encore, comme pour beaucoup d'autres nouveautés de la rentrée, mon avis n'est pas encore définitif, donc c'est plutôt
encourageant,
oui. Il y en a plein que j'ai déjà plus ou moins laissé tomber, hein. Donc celle-là pas encore. Alors pourquoi je dis malgré un certain nombre de défauts? Parce que de fait il y a plein de petits trucs qui me font tiquer, qui à chaque épisode me font dire ah c'est ça me paraît pas très réaliste, ils en font des caisses, etc. Je m'étais dit ça lors du premier épisode notamment parce qu'on avait un personnage qui venait directement de l'aéroport, qui venait manifestement d'un pays africain et qui était porteur d'Ebola, je crois, du virus Ebola. Donc, il faisait pas dans la dentelle pour le pilote. Et quand on voyait la tête et la manière dont, la présentation du personnage en question, c'était extrêmement caricatural et assez peu crédible qu'on l'ait laissé vaquer comme ça d'un aéroport à l'autre, rester dans un avion pendant, on l'imagine, une dizaine d'heures sans que personne ne se soit posé de questions, sans qu'on l'ait arrêté à aucun moment. Enfin, c'est quand même assez... Ça paraissait assez gros. Et il y a plusieurs choses comme ça. Je m'étais dit, bon, c'est le pilote, éventuellement, peut-être que c'est une erreur de débutant et que ça va vite être réglé, mais à chaque épisode, j'en ai vu trois jusqu'à présent.
Tu as chaque épisode, j'ai des gros raccourcis.
Voilà, j'ai parfois des petites restrictions sur mon enthousiasme parce que il y a des trucs qui me paraissent fort caricaturaux, un peu stéréotypés, si, notamment dans la représentation des étrangers, comme c'est le cas dans ce premier épisode, et il n'y a pas que ça. Enfin, donc ça, c'est la raison pour laquelle j'en ai pas parlé d'ailleurs immédiatement. Le problème, c'est que je constate que un épisode après l'autre, le constat reste le même. Et donc, je vais donner un avis malgré tout en essayant de passer outre ces petits problèmes-là, en disant que malgré ça, j'aime bien. le personnage principal, par exemple, aussi, je l'adore pas non plus, tu vois. Il est éventuellement un peu sympa, mais bon, c'est pas non plus le héros de série qu'on attend dans ces dernières années. Ça fait un peu vieillot dans la représentation du héros, un petit peu caricatural aussi, parce que prêt à sacrifier sa vie pour suivre sa mission. Évidemment, il est lui-même porteur de plein de problématiques, tout en nous le présentant comme le type qui fait passer les autres avant lui, etc. Donc ça aussi, tu vois, ça me dérange. Et donc, pourtant, je reviens encore une fois sur mon pourtant. Pourtant, je trouve à chaque fois de quoi ne pas m'ennuyer devant cette série-là. Peut-être aussi que je suis en attente d'une série médicale, que ça fait un petit temps que j'en ai plus trouvé une à laquelle véritablement m'accrocher. J'avais regardé, par exemple, la saison 1 de Good Doctor. Enfin, en tout cas, j'avais regardé la première partie et puis... là aussi, hein, j'avais pas accroché plus que ça, donc j'avais fini par laisser tomber en trouvant ça simpliste. Ici, ce qui me plaît, j'ai l'impression, c'est peut-être l'enthousiasme autour de la volonté de changer un peu la manière de pratiquer la médecine. Ça m'a plu, cette problématique-là, cette idée qu'il fallait un petit peu secouer le cocotier de ce qui se faisait habituellement pour remplacer les méthodologies anciennes par des nouvelles approches. Et donc, c'est un petit peu ça qu'apporte la série, puisque dès le tout début de l'épisode, il arrive comme ça dans l'auditoire où il se présente comme le nouveau chef de l'hôpital, et il vire carrément tout un département, tous les médecins qu'on imagine particulièrement bien installés et de bonne réputation. Ça me parle, tu vois, ça me plaît, le côté un petit peu rentre dedans, on fait table rase pour essayer de trouver des meilleures pratiques, des pratiques peut-être un petit peu plus éthiques aussi. Ça, c'est le côté qui me plaît bien. Dommage que si souvent ce soit fait avec autant de raccourcis. Alors je sais bien qu'une série de 40 minutes, c'est très court pour traiter là quand même minimum 2-3 cas, hein, puisque on va avoir à chaque fois le département plus psychologique psy et neuropsy qui va avoir un cas, le département peut-être des urgences ou bien des cas un peu plus légers peut-être qui ont aussi un cas et puis peut-être la cardiologie ou l'oncologie donc y a quand même beaucoup de choses qui sont traitées en même temps.
Voilà.
On va quand même retrouver un certain nombre de personnages différents et c'est pas désagréable quoi, et c'est assez marrant aussi. Les cas jusqu'ici sont plutôt un peu loufoques quoi, et donc c'est divertissant. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc voilà, New Amsterdam, pour le moment c'est pas le coup de cœur absolu, mais de toutes les nouveautés dramatiques, on va dire, des networks cette rentrée-ci, mais c'est peut-être celle à laquelle j'accroche le plus malgré tout. Donc voilà, à suivre, on verra si elle se retrouve en fin d'année dans un de mes top favoris. On verra. Voilà, donc ça c'était New Amsterdam. Je continue avec une deuxième nouveauté sur laquelle j'ai moins de réserves cette fois-ci, mais il ne s'agit plus d'une série de network, il s'agit d'une série proposée par Netflix qui s'appelle The Haunting of Hill House. C'est une série plus ou moins d'horreur, puisque c'est basé sur le principe de la maison hantée. Hein. On nous présente une famille qui a vécu un drame dans une très grande bâtisse dans laquelle ils habitaient pour la réhabiliter pendant un petit temps. Il s'est passé donc quelque chose dans cette maison. Les choses ne sont pas extrêmement claires sur ce qu'il s'y est passé, justement, parce que chaque enfant, il y a 5 enfants dans cette fratrie-là, et ils ont tous des souvenirs relativement différents de ce qui s'y est passé. Donc, jusqu'à présent, j'ai vu 4 épisodes, et je n'ai pas le fin mot de l'histoire, mais je dois dire que c'est assez bien fait. Le fait que jusqu'à présent, les 4 premiers épisodes étaient à chaque fois centrés sur un enfant différent, ça apporte vraiment, je trouve, une manière de raconter très intéressante. Quelque part, on fait finalement des va-et-vient, puisque on a énormément de flashbacks sur ce qu'il s'est passé à l'époque et puis ce que les enfants sont devenus maintenant. Et ça pourrait paraître assez classique, tu vois, comme manière de raconter l'histoire, mais le fait de passer d'un point de vue à un autre nous fait faire de belles découvertes au fur et à mesure des épisodes. Et ça, j'ai vraiment apprécié le côté... alors, c'est pas vraiment horrifique au sens où... on crève pas de peur, mais il y a un vrai...
Bah, ils te mettent quand même une petite
ambiance,
tension, oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est vraiment dans la tension qui est assez bien distillée entre chaque épisode. On se sent un petit peu stressé malgré tout pour les personnages On accroche de plus en plus au fur et à mesure qu'on en voit. Donc, tout ce que j'attends, c'est de pouvoir en voir davantage. Il y a 10 épisodes à cette série-là et je dois dire que j'ai hâte de voir la suite. Donc, voilà. C'était The Haunting of Hill House et je le conseille. C'est plutôt une chouette découverte sur Netflix.
Tout à fait. Bon, moi j'ai accroché le wagon, enfin le train en route, mais oui, de fait, les deux épisodes que j'ai pu voir m'ont tout à fait passionné.
Voilà, un avis un peu différent, mais finalement, on se rejoint là-dessus. Je vais terminer cette fois-ci avec une troisième série, mais une troisième série qui n'est pas une nouveauté, puisque j'avais envie de parler de la saison, je crois que c'est la saison 4 hein, de Better Call Saul, qui vient de se terminer. Alors, je ne sais pas ce que tu as pensé de cette saison, toi.
j'ai beaucoup perdu de moments, tu vois. C'est une série que j'ai regardée, mais avec une certaine fatigue. Et donc, de temps en temps, ben, j'ai loupé des épisodes, enfin des parties d'épisodes.
Aïe. Bon, ok, on te demandera plus ton avis, finalement. Bon, Better Call Saul, saison 4, oui, je crois que c'est 4. Hein. C'était quoi? Personnellement, je l'ai trouvé un petit peu en dessous des trois précédentes. Une des choses qui m'a dérangée, je sais que ça dérange pas tout le monde, mais ça devient de plus en plus deux séries différentes, en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment... on se concentre moins sur la personnalité de Jimmy, mais on a presque un mi-temps Jimmy et un mi-temps Mike.
C'est ça, on se rapproche de l'univers de Breaking Bad, oui. Très très fort.
Oui, mais ça fait... Je trouve que du côté Breaking Bad, ça fait fort...
Il n'y a pas de...
Préquel, tu vois, ça fait fort. Ah, mais voilà, on va vous raconter comment... là, en l'occurrence, comment le laboratoire en dessous de la laverie a été construit. Oui, c'est bien, mais je m'en fous, en fait.
Mais de fait, le lien avec Jimmy dans toute cette partie-là est tout à fait inexistant ou quasiment.
Oui, voilà. Et moi, j'aime Better Call Saul parce que j'aime l'histoire de Jimmy. C'est vraiment ça qui me passionne. Et donc, l'histoire de Mike et de comment les choses se sont mises en place du côté de Gustave Fring, ça m'intéresse beaucoup moins. Donc, j'ai été un peu frustrée d'avoir finalement... le temps consacré à Jimmy autant raboté au profit de Mike. Mais bon, ça, je sais que beaucoup de téléspectateurs aiment Mike.
Voilà, donc, moi de mon côté, j'aimais bien quand même que ces moments arrivent. Il y avait certains épisodes où justement, on ne parlait pas de cette partie-là, et là, on se dit, ça manque.
Ah bon, moi pas du tout, vraiment, mais j'en ai rien à battre de ce vieux bougon. Ça me...
Ouais, si, ça a son charme.
Je vois pas quel charme ça. Mais bon, bref. Donc je vais surtout me concentrer sur la partie de Jimmy parce que c'est ce qui m'intéresse finalement. Pour la partie de Jimmy, j'ai trouvé ça intéressant. Mais il y a deux, trois trucs que j'ai pas compris. Et ça aussi, ça m'a dérangé. Une des choses que j'ai pas compris, c'est que moi, j'avais vraiment... La manière dont j'ai vécu, je crois que c'était la fin de l'épisode 9, je l'ai vécu comme une rupture entre Jimmy et Kim, en fait. C'est comme ça que je le voyais. Mm-hmm. Et puis après, épisode 10, ils sont ensemble comme si de rien n'était... Donc, peut-être que quelqu'un pourra m'éclairer là-dessus, ou peut-être qu'il faut que je re-regarde juste l'épisode 9.
T'as peut-être manqué quelques minutes où tu étais endormi aussi, ça arrive.
Ça arrive, oui.
On le voit s'éloigner, il va dormir dans la chambre d'à côté, je sais plus bien quoi, mais bon, ça, on n'a pas vu une rupture réelle, quoi, tu vois.
Oui, je sais pas, moi j'avais l'impression que il ou elle faisait ses valises, ou en tout cas c'est vraiment ça que j'avais compris. Donc, mais bon, comme tu le dis, c'est peut-être juste un manque d'attention à ce moment-là, et il faudrait juste revoir l'épisode. quoi qu'il en soit, ce qui est, ça reste extrêmement cohérent avec tout ce qui a été fait jusqu'ici. C'est un petit peu dommage, mais c'était déjà le cas aussi dans Breaking Bad. Le personnage devient de moins en moins attachant, évidemment. Au fur et à mesure qu'on avance dans les séries, il devient de plus en plus trouble. Et donc, ça devient de moins en moins facile de le suivre dans son délire. Et là, c'est un peu le cas. On est en train d'assister vraiment à la transformation d'un type finalement très humain dans les premières saisons, à un type qui semble ne plus avoir aucune émotion et ne plus faire que jouer les émotions que son public attend sur le moment. Donc à ce niveau-là, ça fait toujours un petit pincement au cœur quand on est accroché au personnage. C'est comme si c'était quelqu'un dans la vraie vie qu'on voyait comme ça passer du côté obscur sans pouvoir rien faire pour lui, quoi. Et en plus, là, on sait que de toute façon, il va tourner de plus en plus mal. Donc, c'est de plus en plus difficile à regarder ça. Et rien que pour ça, malgré tout, ça vaut quand même le détour. Le dernier épisode est particulièrement impressionnant à ce niveau-là, vu que on a quelque part une sorte de réminiscence de ce qu'avait pu être finalement la relation qu'il entretenait avec son frère, et puis la froideur avec laquelle il finit par utiliser ce ressort-là pour récupérer sa licence d'avocat. Donc c'est vraiment pas une saison inintéressante. C'est en plus vraiment très très cohérent avec ce qui a été fait dans chaque saison. En fait, chaque saison reprend le même canevas pour l'approfondir et aller un petit peu plus loin à chaque fois dans ce côté-là, qui est vraiment l'idée que j'ai beau être plutôt un chic type, mais finalement on verra jamais en moi que l'arnaqueur, donc autant assumer ce qu'on a toujours pensé de moi et devenir vraiment cet arnaqueur-là, quoi. Donc ça, je dois dire que sur le message que ça transmet, c'est aussi assez fort, quoi. Et ça le martèle depuis le début, ça. Donc c'est bien vu. Ça reste toujours aussi bien joué, ça reste toujours aussi bien amené, filmé, etc. Donc, bon, même si j'ai, c'est vrai, trouvé moins d'intérêt au parti qui était consacré à Mike, malgré tout, ça reste une excellente série que je continue à suivre avec plaisir, quoi.
Bien, à suivre, donc.
Ben oui, à suivre. On imagine que, en plus, la série va progressivement atteindre son but, hein, puisque là, la transformation en Saul Goodman est enclenchée, et donc il reste plus grand-chose pour en arriver finalement à Breaking Bad, quoi.
Parfait. Voilà pour la revue de la semaine. On va marquer une pause musicale avant d'attaquer le sujet du jour.
On va s'écouter Be My Baby des Ronettes, entendu dans Scream Queen.
Oh,
nous sommes de retour pour aborder le sujet de cette édition de Série Folie. Quel est-il, Aurore ?
On va parler de l'enfance, puisque dans The Haunting of House Hill, on a des personnages qui sont hantés par leur enfance. Je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire un petit peu le point sur la manière dont l'enfance est traitée dans les séries.
C'est une très bonne idée. Et par quel bout de la lorgnette veux-tu démarrer ?
On va commencer déjà par faire un point sur ce qui nous est proposé habituellement. Déjà en commençant par constater que finalement l'enfance en tant que telle est relativement peu représentée dans les séries par rapport par exemple au nombre d'adolescents qu'on a dans les séries. Alors c'est sans doute simplement parce que ça doit être plus difficile de faire travailler des enfants et qu'il y a beaucoup plus de lois qui contrôlent ça, etc. Hein. Mais quand tu réfléchis au nombre de héros de séries qui ont des enfants, dans presque la grande majorité des cas, ce sont en fait des adolescents, des gens qui ont... parfois éventuellement des pré-adolescents, on sait que de saison en saison, ils vont de plus en plus se rapprocher d'un âge où ce sera plus facile de les faire avoir un rôle quasiment adulte dans la série, quoi. Des enfants en tant que tels, à part éventuellement pour représenter la manière dont une héroïne peut être bloquée à la maison, comme Lynette par exemple dans Desperate Housewives, on en a pas tant que ça, quoi. C'est bête, mais finalement, souvent, les enfants, c'est pas évident, quand t'as des enfants, de vivre plein d'aventures en même temps. Hein, c'est plutôt encombrant pour commencer à vivre plein d'aventures, quelles qu'elles soient, que ce soit des aventures professionnelles pour les séries qui nous représentent plus des milieux professionnels, ou bien des aventures en tant que telles pour des séries... un petit peu plus imaginative ou imaginaire. Du coup, l'enfance est relativement rarement le sujet central d'une série. Néanmoins, j'ai l'impression que pour celles dans lesquelles ce sera le cas, et j'insiste sur le fait qu'ici, j'ai vraiment essayé de me concentrer sur les séries qui nous présentaient des enfants et pas des adolescents. Donc ça met quand même de côté énormément de séries que je prends pas en compte. Il y a certaines séries, tu te dis, je les prends quand même parce que ce sont vraiment des très très jeunes adolescents qui ont peut-être 12 ans, 13 maximum. Mais même là, tu peux te dire, on est déjà... plus tout à fait dans l'enfance. Souvent, là par exemple, on entend en arrière-plan le Top of the Lake. Je ne me souviens plus exactement de l'âge de la gamine qui est le prétexte central de la saison 1 en tout cas, mais étant donné qu'elle est enceinte, on imagine qu'elle est déjà dans la préadolescence au minimum. Bref, ceci étant dit, donc on va essayer de se lancer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quatre types de séries qui, malgré tout, vont laisser une place, malgré tout, à des enfants ou à la question de l'enfance dans leurs propos. En commençant par celle qui me paraît la plus évidente et dans laquelle on va peut-être retrouver le plus d'enfants, c'est les séries familiales. Évidemment, même si dans beaucoup de séries familiales, on va quand même avoir un certain nombre d'adolescents, malgré tout, c'est rare qu'il n'y ait pas au moins un ou deux enfants dans le tas qui restent encore relativement jeunes. Je pense à, évidemment, les comédies du genre Malcolm in the Middle ou The Middle. On peut penser à Modern Family, on peut penser à Fresh Off the Boat. Plus récemment, on a Young Sheldon qui se présente aussi sur ce modèle-là. Donc, on a une famille dans laquelle on va avoir plusieurs frères et sœurs avec les parents, évidemment. Généralement, comme je l'ai dit, on a quand même un ou deux frères ou sœurs qui sont déjà adolescents, mais on en a aussi des plus petits. Et donc, c'est le cas vraiment des comédies en tant que telles, mais ça peut être le cas aussi dans quelques séries un peu plus... qu'on dit dramédie, je pense à Louis, par exemple. Louis qui a deux filles qui sont encore relativement jeunes et qui, là, en effet, joue en partie le rôle d'empêcheuse de tourner en rond. Hein. Elles sont là aussi pour montrer les préoccupations du héros qui est un père célibataire qui doit donc se préoccuper de ses enfants. Ou bien dans Better Things, où là, c'est une mère célibataire qui doit s'occuper de ses enfants avec tous les problèmes et notamment les problèmes relationnels que ça peut comporter. Et puis, on va aussi avoir certains formats plus dramatiques dans lesquels on va aussi retrouver des enfants comme ça. Je pense par exemple à La Petite Maison dans la Prairie, tout simplement, dans laquelle aussi on a la famille avec plein d'enfants. Je pense à une série comme La Vie à 5, où là c'est carrément... il n'y a même pas de parents, puisque les parents, si je me souviens bien, sont morts. Et donc, ce sont les grands-enfants qui s'occupent des plus petits. Ou bien, Shameless.
Shameless, il reste une... Bon, il y a une progression hein, depuis.
Oui, évidemment, voilà. Il y a une énorme progression.
Ils ont tous bien grandi.
Voilà, mais à la base, ils étaient quand même tous relativement jeunes, même s'il y en avait déjà quelques-uns qui étaient rentrés dans l'adolescence. Ou aussi, il y a la... évidemment, certaines séries comme Desperate Housewives ou dans Big Love ou dans Good Girls plus récemment, on va aussi avoir la présence d'enfants, mais là, plus en arrière-plan, comme ça, pour représenter plus les responsabilités familiales qui restent centrales pour le héros, même si les aventures du héros en elles-mêmes ne comprennent pas les enfants et on n'emporte pas les enfants avec nous quand on va dealer avec des trafiquants dans le cas de Good Girls ou ce genre de choses-là. Quoi, hein. Idem pour une série comme Weeds, par exemple, où là aussi on a les enfants qui sont présents, mais qui, au début en tout cas, sont moins des personnages à part entière que la responsabilité de la mère qui est représentée par ses enfants, qu'elle va bien devoir faire vivre et continuer à porter à bout de bras malgré le drame qui s'abat sur elle, quoi. Donc voilà, ça c'est premier type de série. Et j'ai l'impression que pour chaque catégorie, on va avoir des types de questionnements différents. Dans les séries qui nous représentent les enfants dans le cadre d'une vie de famille, mais ce sont surtout les questions de parentalité, dans le cas évidemment où On a l'interrogation de c'est quoi être un parent, c'est quoi avoir les responsabilités d'enfant, c'est quoi la relation qu'on peut nouer avec un enfant, et puis aussi toute la question des liens fraternels qui vont se lier avec tout le côté de mésentente que cela peut comporter, parfois particulièrement forte, voire violente, hein, mais qui, généralement, dans ces séries-là, est contrebalancée par le fait que, au final, la famille reste toujours sacrée, quoi, hein, ça reste quand même le cocon auquel on insiste pour ne pas y toucher, en tout cas. Donc, première catégorie. Deuxième catégorie ensuite, ben, ce seront les séries dans lesquelles qui vont d'ailleurs souvent se présenter l'enfance davantage sous la forme de flashback, puisque ben, ce sont les séries où on retourne aux sources de ce qui a fondé l'identité d'un personnage. C'est le cas justement de la série The Haunting of Hill House, où par exemple dans l'épisode 2 qui est consacré à la plus grande fille de la famille, on voit très bien combien ce qu'elle a vécu a déterminé par exemple son choix de carrière. Donc c'est vraiment l'enfance comme explication, comme source de ce qu'on devient quand on accède à l'âge adulte. Alors ça peut être sur un mode relativement dramatique comme dans cette série-là, mais ça peut être aussi sur un mode peut-être un petit peu plus léger, quoique. Je pensais par exemple à Jane the Virgin, dans laquelle on explique bien à quel point c'est son éducation et le côté très impressionnant de ce que lui avait expliqué sa grand-mère sur la virginité qui explique son désir de rester vierge jusqu'au mariage, ou bien Crazy Ex-Girlfriend, dans laquelle on a vraiment une exploration de la manière dont sa relation avec son père, ou son absence de relation avec son père d'ailleurs, et sa relation avec sa mère est déterminante pour comprendre les problématiques de cette jeune femme, sa peur de l'abandon, etc. Donc, c'est pas forcément sur un mode hanté ou particulièrement dramatique, mais malgré tout, ça explique énormément de choses. Et sur ce mode-là, que ce soit dramatique ou pas, mais on va quand même retrouver beaucoup de séries. On peut penser à Dexter, on peut penser à aux enfants, enfin aux deux personnages de Supernatural qui ont quand même qui trouvent la source de tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils font dans un événement de leur enfance aussi. On peut penser à Sharp Object, la série de cet été qui nous retrace la vie l'enfance d'une journaliste particulièrement traumatisante. On avait eu l'année passée la série Patrick Melrose, dans laquelle on avait là aussi des épisodes flashback particulièrement impressionnants. Par exemple, une bonne partie des séries qui se consacrent aux super-héros aussi vont rechercher dans l'enfance du personnage les raisons de ce qu'il devient. Je pense à Iron Fist, je pense à Daredevil, je pense à Jessica Jones, même si Jessica Jones elle est déjà un peu plus vers l'adolescence, mais c'est le cas aussi dans Flash également. On va retrouver aussi dans Mr. Robot ce procédé-là. Enfin bref, on a énormément de séries. On peut penser à Mr. Mercedes ou Castle Rock. On peut penser à This Is Us, dans lequel évidemment aussi l'enfance et l'adolescence jouent un rôle très important dans Pushing Daisies. On peut même mettre la série Dark dans cette histoire-là, puisque finalement, tout ce qui est arrivé aux enfants sont prédéterminants pour comprendre ce qui arrive aux adultes et pour même comprendre qui sont les enfants, qui sont les adultes dans cette histoire, parce que c'est pas toujours très clair au départ, en tout cas. Donc ici, c'est vraiment plus la question de l'identité, j'ai l'impression, qui est creusé par cette catégorie-là de séries. Ensuite, on a les séries dans lesquelles on a des enfants. Ils peuvent être nombreux et faire partie des personnages principaux de la série, ou bien n'être que un ou deux et être noyés dans la masse des personnages. Mais quoi qu'il en soit, ils vivent des aventures au même titre que n'importe quel héros. C'est le cas dans Game of Thrones avec Arya, c'est le cas dans Walking Dead avec Carl, c'est le cas dans Stranger Things, évidemment. Je pense évidemment à South Park ou aux Simpsons aussi, dans lesquels, évidemment, ce sont des personnages qui vivent des aventures. A Series of Unfortunate Events, dans Gotham, évidemment, Bruce Wayne vit aussi les aventures en tant qu'enfant au départ, en tout cas. Il y avait une série dans laquelle seuls les enfants survivaient, tous les autres mouraient à cause d'une épidémie de je sais plus quoi, qui s'appelait Between, évidemment, dans laquelle là aussi les enfants avaient le rôle principal. Dans Once Upon a Time, c'est le cas de Henry. Enfin, on a beaucoup de séries comme ça dans lesquelles on a des enfants qui vivent des aventures. Et là, ce sera plus la question de qu'est-ce que c'est grandir, et notamment grandir dans des circonstances un petit peu particulières qui sera au centre des préoccupations dans ce genre de série-là. Et puis, quatrième et dernière catégorie, cette fois-ci, il s'agit de séries dans lesquelles les enfants ne sont pas forcément les rôles principaux, mais ils jouent un rôle prépondérant pour être un enjeu de l'ensemble de ce qui nous est présenté comme histoire. On nous présente les enfants finalement comme un monde un petit peu à part, un petit peu mystérieux, totalement secret, dont il faudrait réussir à percer les secrets pour comprendre ce qu'il s'est passé. C'est le cas dans Big Little Lies, c'est le cas dans Broadchurch, c'est le cas dans Happy, c'est le cas dans Top of the Lake, je pensais aussi à des séries comme Touch ou Believe, qui n'ont pas duré longtemps, mais qui là aussi vont plutôt s'intéresser à ce ressort-là, c'est-à-dire nous présenter l'enfance comme quelque chose d'un peu mystérieux dont il faudrait creuser les mystères pour mieux comprendre presque les secrets de la vie, quoi. Donc voilà, j'ai fait le tour des quatre catégories et des questions qu'ils posaient.
Ok, et on a déjà cité pas mal de noms de séries, et malgré tout, l'enfant est quand même bien représenté, hein, moi j'ai l'impression. T'avais plutôt ce sentiment de dire « Ouais, c'est quand même pas évident de les retrouver dans les séries. » Et quand tu écoutes toute la liste, ils y sont quand même, hein, sous différentes formes. Hein,
mais... Oui. Mais malgré tout, tu vois, j'en ai quoi ? J'en ai quelques dizaines sur des centaines de séries différentes.
D'accord.
Donc, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Hein.
En tout cas, dans celles que tu as citées, ils y sont.
Oui.
Et j'ai l'impression que peut-être que c'est aussi une part de choix qui fait que on va vers ces séries-là aussi pour peut-être voir autre chose.
Ah, peut-être.
Bon, pause musicale.
Oui, on va s'écouter American Pie de Don McLean, entendu dans Patriot.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, day that I die. This will be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lennon read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. The day we were singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die.
Troisième et déjà dernière partie de cette émission, on continue avec toi Aurore de développer le sujet du jour.
Oui, donc il ne nous reste pas énormément de temps, donc je vais un petit peu speeder. On est en train de parler de l'enfance et j'ai peut-être encore quelques petits trucs à dire sur la manière dont les séries nous représentent l'enfance. Ça a commencé par le constat que lorsque les séries nous parlent d'enfance, très souvent, ce sont, quand on a des personnages enfantins, ce sont très souvent des enfants qui sont pas tout à fait comme les autres. On a quand même, j'ai l'impression, une surreprésentation d'enfants à l'intelligence, au talent, à la maturité exceptionnelle. Ça se ressent notamment à travers du casting qui est fait. Qui souvent nous proposent des enfants particulièrement talentueux, mais c'est aussi un choix scénaristique à la base, puisqu'on a quand même une grosse représentation, par exemple, d'enfants surdoués parmi les enfants qui nous sont proposés à l'écran. Dernièrement, on a aussi un certain nombre d'enfants, par exemple, qui vont avoir déjà une identité de genre un petit peu questionnante ou en forme de point d'interrogation, en tout cas. Mais bon, c'est peut-être juste une tendance de ces quelques dernières années. Donc, les enfants ne sont pas tout à fait comme les autres. Et puis, très souvent, ils ont une enfance aussi qui n'est pas tout à fait comme les autres, que ce soit parce que les événements sont extraordinaires. Évidemment, quand je parle de Walking Dead, Stranger Things, Game of Thrones, etc., évidemment, c'est pas vraiment l'enfance que nous, on a connue, mais ça peut être aussi parce que leurs parents ne sont pas tout à fait des parents comme les autres, voire parce que leurs parents sont carrément démissionnaires, qu'ils sont un peu laissés à l'abandon, qu'ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Et donc, au final, si on regarde bien, les enfants qui nous sont représentés à l'écran, alors je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais moi j'ai l'impression qu'on s'identifie pas vraiment à ces enfants-là. On n'a pas l'impression de nous retrouver, nous, quand on était enfant, en regardant des enfants de série, quoi. Uh-huh. J'ai l'impression que c'est pas là-dessus que va jouer la vraisemblance de ces personnages-là. On nous les présente malgré tout comme relativement réalistes. Hein. On est capable de croire que des enfants comme ça existent, mais il n'y a pas une volonté de nous faire nous replonger dans notre enfance. Peut-être un petit peu plus dans les comédies familiales. Et encore, comme je le disais, dans les comédies familiales, il y a notamment une surreprésentation d'enfants surdoués ou super talentueux qu'on retrouve pas forcément autant dans la population ordinaire. Donc voilà, ça c'est un premier constat un petit peu étonnant quand on se penche sur la question. Deuxième constat, le casting n'est pas du tout évident quand il s'agit de caster des enfants, mais parfois il est particulièrement impressionnant, surtout quand on a des séries qui durent vraiment très très longtemps, qu'on a l'occasion de voir ces enfants grandir devant nos yeux et finir par devenir adultes, et qu'on se rend compte à quel point ce sont des adultes qui jouent bien, et on se dit mais comment est-ce qu'ils ont aussi bien réussi à faire leur casting à la base. Moi je suis toujours impressionnée, par exemple, justement on en parlait il y a pas juste avant, par tous les enfants de la série Shameless. Je parle ici de la version US, hein, puisque j'ai pas encore vu la version originale anglaise. Je suis impressionnée par tout ce que sont devenus ces enfants-là qui ont été castés finalement extrêmement jeunes. Les enfants sont aussi un marqueur temporel très très important dans les séries, puisque justement dans un certain nombre d'entre elles, on les voit grandir devant nos yeux, et donc ça marque vraiment le temps qui passe, ça nous renvoie à la réalité finalement. Hein. On ne peut pas ne pas voir l'acteur derrière le personnage qui lui aussi est en train de grandir, et en même temps on a toute une série de séries justement qui vont jouer sur le côté très intemporel de l'enfance, alors notamment évidemment grâce aux séries animées, on pense aux Simpsons ou à South Park par exemple, qui jouent particulièrement bien là-dessus, où on a une enfance qui n'en finit jamais, les enfants restent éternellement des enfants, mais on peut constater aussi que dans certaines comédies familiales, le casting est fait de telle sorte qu'ils puissent rester, que les acteurs puissent rester enfants finalement, ou en tout cas qu'on continue à leur donner une identité d'enfant très très longtemps après que eux aient atteint un âge, l'âge de la majorité, quoi. Par exemple, si on regarde les acteurs de The Middle, ils ont joué les enfants quand même très très longtemps après avoir atteint, à mon avis, un âge beaucoup plus important. Donc voilà, ça c'est aussi intéressant à remarquer. La dernière chose que je dirais enfin, c'est que j'ai l'impression que souvent, représenter les enfants dans les séries télévisées, c'est aussi, dans énormément de séries, l'occasion de s'interroger sur le rapport qu'il peut y avoir entre l'innocence et la sauvagerie. L'enfance, c'est souvent le territoire presque pré-culturel, un peu fantasmé comme ça d'une nature encore relativement vierge, dans laquelle on a un mélange assez particulier d'innocence et de sauvagerie à l'état brut aussi. Alors c'est le cas pour les enfants en tant que tels, leur caractère, etc. Mais ça va être aussi souvent le cas pour le monde qui les entoure et ce qu'ils ont à subir de la part du monde qui va être d'une sauvagerie énorme par rapport à l'innocence avec laquelle ils peuvent regarder ça. Donc c'est aussi un thème qui est quand même extrêmement récurrent quand on représente l'enfance dans les séries télévisées, notamment c'est cette question de quelle est la part de sauvagerie qui se cache dans l'innocence. Voilà.
Voilà, merci pour ce constat. On va se quitter en musique, Aurore.
On va se quitter en musique, oui, on va se réveiller un petit peu avec I've Got the Power de Snap, entendu dans Me, Myself and I.
À tout bientôt pour une nouvelle édition de Série Folie.
Can't be stolen if they all snap. Don't need the police to try to save them. Your voice will sing. So I will attack, and you don't want that.